Avant la prière, nous voulons lire dans Romains, le chapitre 12, à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La dernière phrase a résumé tout ce que nous devons savoir, et que Dieu puisse à tous nous l'accorder par sa grâce, pour que nous puissions subsister devant lui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans ce matin glorieux, quand notre Seigneur reviendra, il y aura un troupeau rassemblé qui aura vaincu, qui a vaincu. Ce sera les vainqueurs qui hériteront tout. Dans chaque écrit aux églises, il est écrit à la fin que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Et dans ce temps, il ne s'agit pas d'écouter ce que des hommes ont à dire, mais d'écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Et l'Esprit de Dieu a révélé la parole de Dieu par la bouche mandatée de son serviteur le prophète. Tous ceux qui ont reconnu cela reconnaîtront aussi à qui est-ce qu'ils ont à prêter leur oreille et à quoi est-ce qu'ils ont à écouter et à quoi est-ce qu'ils ont pas à écouter. La troupe des vainqueurs est le seul groupe qui a la possibilité de reconnaître le mal, de surmonter le mal, et cela par le bien. On ne peut pas surmonter le mal, rendre le mal par le mal, et ensuite être vainqueur. Non, ça, ce n'est pas l'ordre divin. Ici, il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et maintenant, je veux vous montrer comment cela se passe. Si quelqu'un raconte toutes sortes de vous, toutes sortes de choses sur vous, dit toutes sortes de choses négatives sur vous, et que vous la prenez, hein, mais vous dites de lui tout ce qui est positif, tout ce qui est positif, car chacun est capable de rendre le mal par le mal, mais de bénir et de dire du bien et de faire du bien, le peut seulement celui à qui Dieu a accordé sa grâce, ou bien accorde sa grâce. Ici, parce qu'il est parlé de vaincre, j'aimerais encore vous dire la chose suivante. Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu. Il a supporté tout, surmonté tout, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il s'est pas défendu. Il n'a pas cherché son propre droit, mais il a remis tout entre les mains de celui qui jugera justement, du juste juge. Il a vaincu. Il a réussi l'épreuve. Nous aussi, nous devons réussir notre épreuve. Et en tant que vainqueurs, ressortir des épreuves, les vainqueurs hériteront toutes choses. Remarquons-nous bien ce verset de Romains 12. C'est le dernier verset du chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous devons être prêts à mettre notre volonté dans la volonté de Dieu. Nous avons à décider au service de qui nous voulons nous tenir. Est-ce que c'est pour l'édification du corps de Jésus-Christ que nous voulons contribuer par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, ou bien alors nous voulons justement participer à l'œuvre de celui qui détruit l'Église? Vous savez, il y a toujours deux choses. Les uns édifient, les autres détruisent. Chaque ministère que Dieu dans l'Église a établi sert à l'édification de l'Église. Ainsi que le Seigneur puisse nous tous nous accorder sa grâce pour que nous puissions réussir nos épreuves qui vont devenir toujours plus grands, toujours plus, oui, qui vont devenir toujours plus fatidiques, que nous puissions jusqu'à la fin, avec l'aide de Dieu, les réussir. Par la grâce de Dieu, nous allons les réussir, car c'est ainsi que c'est écrit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, autrefois a fait cette expression. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera de la foi sur la terre quand il viendra, quand il viendra? C'est un temps d'épreuve, un temps d'épreuve particulière par lesquelles nous avons à passer. Que le Seigneur puisse nous bénir pendant ces heures et d'une manière puissante parler à nos cœurs. Levons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion que nous avons de venir devant ta face. Ô Dieu, tu es saint et nous sommes impurs et habitons parmi un peuple avec des lèvres impures. C'est peut-être la raison que nous te demandons, purifie-nous et sanctifie-nous par ton sang et par ta parole. Fais-le maintenant pendant que dans la prière et dans la foi devant ta sainte face nous apparaissons. Seigneur Dieu fidèle, tu connais les difficultés, les afflictions et les requêtes de chacun. Seigneur, ensemble, nous te demandons de nous recevoir, oui, d'accepter d'écouter nos difficultés, de nous aider, de nous recevoir. Que nous puissions devant ta face, Seigneur, demeurer et d'une telle manière que tu puisses être présent pour que chacun ressente, à tel point que chacun ressente ta présence et encore plus que ça, que nous puissions t'expérimenter personnellement. Seigneur, ta grâce doit être expérimentée par personne, par chacun. Ton pardon doit être reçu, Seigneur, que toutes les promesses deviennent une réalité dans nos vies. Bâtis ton Église sur, oui, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et que nos prières et ce qui doit être dit soient inspirés par ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne suis pas ici dans mes propres affaires ou bien dans mes propres choses. Nous sommes tous rassemblés devant ta face et voulons écouter ta parole. Ton peuple veut être béni de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui as parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Toi qui as donné des promesses et qui, dans le déroulement du temps, les a accomplies. Seigneur, tu as ouvert nos yeux et nos cœurs et nos yeux spirituels et tu les as oints du collier pour les yeux de l'onction de ton esprit pour que nous puissions voir de quelle manière ta parole maintenant s'accomplit. Dieu fidèle, que aussi pendant cette heure, nos yeux soient oints de l'onction de ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas voir les choses de nos yeux, de nos propres yeux, mais voir, écouter ta parole comme toi tu vois les choses et comprendre les choses et être béni par toi. Seigneur, regarde-nous et descends parmi nous selon ta promesse. Sauve ceux qui sont perdus. Délivre ceux qui sont liés. Et guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui sont affligés. Et relève ceux qui sont... Oui, relève ceux qui sont affectés. Que pour chacun et pour sa requête et pour sa difficulté, une parole sorte de ta bouche. Ô Sauveur fidèle, nous savons que ton retour est très, très proche. Et pour nous, ce n'est pas resté caché non plus que l'ennemi s'est levé pour engloutir, pour détruire et pour éparpiller. Mais nous prêterons notre oreille qu'à toi seul. Et nous te demandons maintenant ta grâce et ta force pour surmonter le mal qui s'approche de nous. Par le bien que toi tu nous accordes, pouvoir surmonter ce mal. Seigneur, nous croyons que dans ce dernier temps, une épouse parole est appelée à sortir, une troupe des vainqueurs survient, apparaît, lavée dans le sang de l'agneau, couronnée de grâce et de miséricorde. Une église sans tache et sans rides. Dans la foi, nous pouvons nous compter dans cette troupe de vainqueurs. Alléluia. Louange, gloire te soit apportée. Le vainqueur de Golgotha, à toi, le grand vainqueur qui nous a aimés en nous faisant sortir, en nous appelant à sortir, en nous faisant sortir par amour. Seigneur, tu as vaincu Satan, la mort, le péché, le diable. Tu as vaincu toutes choses. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Tu vis. Et avec toi, nous vivons aussi. Seigneur, que cette vie, qu'est la tienne, en nous et par nous, soit manifestée, devienne visible. Seigneur, que maintenant sous l'écoute de ta parole, la relation et la liaison et la communion soient présentes avec toi dans nos cœurs. Ô Dieu, et si maintenant nous voulons même fermer nos yeux sous l'écoute de la parole, nous ouvrons, toi ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir les miracles divins et tes œuvres et tes actions du salut en esprit, les voir et les suivre. Dieu fidèle, Seigneur fidèle, ta grâce, ta paix et ta joie soient avec nous tous. Dans le nom de Jésus. Amen. D'abord, je voudrais saluer tous très, souhaiter la bienvenue à tous très fraternellement, très cordialement dans le précieux nom du Seigneur. Et j'espère que vous vous sentez bien et que vous ressentez que l'Esprit de Dieu agit et que le Seigneur est présent. Particulièrement à tous ceux qui aujourd'hui, éventuellement, seraient là pour la première fois, bien sont là pour la première fois. Nous vous souhaitons, à vous, nous vous souhaitons très particulièrement la bienvenue parmi nous. puisse demander qui est là pour la première fois. Levez courtement les mains. Il y en a quelques-uns? Oh oui. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, au minimum 6. Très bien. Nous nous réjouissons de tout notre cœur. Merci. Vous pouvez rebaisser les mains. Ça, nous voulons le dire à ceux qui peut-être ne le savent pas encore. Pour nous, avec le plus profond, avec la plus profonde sincérité et avec ce que Dieu peut nous donner, c'est d'apporter sa parole telle qu'il a prononcée, telle qu'elle est sortie de sa bouche et telle qu'il nous l'a transmise et telle qu'il a révélée nouvellement et l'apporter ainsi dans cette forme aux hommes. Car nous savons, nous croyons que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Alors que de son temps, j'avais à continuer le ministère et les messages que Frère Branham avait apportés au nom du Seigneur. Et la première brochure, la première lettre circulaire, elle devait être écrite. Alors, la parole est venue de mon cœur qui était écrit comme titre. La parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est ainsi que, autrefois, les éditions, autrefois, les brochures, les lettres scolaires ont été titrées. Et aujourd'hui encore, le résumé de chaque écrit à ce titre, la parole de Dieu demeure éternellement. Et alors que j'avais fini avec la première brochure et que je commençais à signer, jusqu'alors je n'avais jamais d'idée, en fait, comment on devrait le faire quand on a fini d'écrire. Et j'étais assis là et je voulais écrire, je voulais signer, je ne savais vraiment pas ce que je devais signer, ou bien avec salutation fraternelle, ou bien alors avec haute estimation, mais enfin, quelle sorte d'expression connue, qu'est-ce que je devais écrire, je ne le savais réellement pas. Et j'ai commencé à écrire, donc à vouloir signer quelque chose, et subitement, quelque chose m'a dit dans mon cœur, agissant de la part de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Et c'est ce que j'ai écrit comme signature. Je vous dis, si j'avais eu le temps de réfléchir, je l'aurais fait plusieurs fois avant d'avoir écrit cela, agissant de la part de Dieu. Car, n'est-ce pas, ça pourrait se faire voir comme être jugé par, comme voulant s'élever ou bien paraître quelque chose pour ceux qui savent qu'encore aujourd'hui, Dieu peut mandater et ordonner un homme. Alors, que ce soit une écriture ou bien si j'avais aujourd'hui à signer quelque chose, cette décision qui m'a été mise dans mon cœur par le Seigneur, c'est ce que je ferai encore aujourd'hui et je formulerai cela de la même manière en tant que signature agissant de la part de Dieu. Je ne sais pas à tel point est-ce que chacun de vous ou bien chacun peut se représenter ou bien se mettre à la place de quelqu'un qui a reçu un mandat divin, qui a un mandat divin. Nous savons que de telles personnes, d'une manière particulière, avaient été mis dans le feu, pris dans le feu. Et quand on tirait, alors c'était toujours eux qui étaient visés, ceux que Dieu voulait utiliser, veut utiliser. Alors, si cela dépendait de moi ou bien alors de ma décision, moi depuis longtemps, j'allais arrêter. Et est-ce que je dois vous dire aujourd'hui que si je le faisais, alors les critiqueurs aussi auront l'occasion de critiquer ça. Quand on prêche la parole, cela n'est pas bon pour eux. Quand on arrête, si on arrêterait de le faire aussi, oh, alors, qu'est-ce qu'ils vont encore plus trouver à dire? Alors là, ce sera avec des trompettes et des tambourins qui vont en parler. Et là aussi, ils vont critiquer. Vous voyez? Donc, restons dans la décision divine, fidèle à cette décision fidèle, et dispensons les mystères de Dieu selon que le Seigneur les a révélés. Et oui, pour que nous puissions subsister devant lui. Vous qui soutenez l'œuvre, je pense beaucoup à vous, priez pour moi, et ensemble le Seigneur nous portera par toutes ces épreuves en raison des promesses qu'il a donné. Cela me reste toujours devant mes yeux, ce que frère Branham, alors que de son temps, il voulait bâtir la chapelle, et voulait placer la pierre angulaire, et que le Seigneur lui était apparu et lui avait montré une vision et l'avait ravi sous un ciel ouvert. Et lui a dit, la chapelle que tu veux bâtir n'est pas la tienne. Et déjà, il était ravi devant le ciel. Et il a vu toute la terre devant lui. Et le Seigneur lui a dit, je t'ai déterminé à apporter à tous les peuples la parole du Seigneur. Oui, donc alors que, et ça, Frère Barillet est ici aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je voulais le dire pour la deuxième fois. Alors que Frère Barillet et moi, il y a plusieurs années, nous étions à Marseille. Cette parole, le matin à 4h-5, donc à 3h55, d'en haut à droite, la voix audible du Seigneur s'est adressée à moi. Lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Autrefois, je n'ai pas pensé à ce que frère Branham avait reçu ces mêmes paroles de la bouche du Seigneur. Et ici, à partir du verset 1, il est écrit 2 Timothée 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, en allemand, apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes, le verset 3, ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère Je n'ai pas d'autre choix. Et si c'est de souffrir, de supporter le mépris, le rejet, les calomnies et tout ce qui est lié à cela à cause de la prédication de l'Évangile, je le supporte volontiers, mais la vérité et la parole de Dieu restent indivisibles. Et seulement la parole de Dieu, la vérité peut nous rendre libres. C'est facile pour chacun de répéter une citation des versets de l'Ancienne Écriture et dire oui, la vérité vous affranchira. Au moment, ça ne peut être qu'une phrase, mais combien utilisent cette phrase? Et en fait, eux-mêmes ne connaissent même pas la vérité. Ne sont pas pénétrés par la vérité et ont plutôt les credos et les ont plutôt prêté l'oreille à des credos et à des fables. Si cette parole de Dieu doit devenir en nous une vérité, doit devenir en nous ce qu'elle est, la vérité. Donc ça veut dire que personnellement, ça veut dire que nous avons été pénétrés par les vérités divines de sa parole, par son Saint-Esprit. Tout le reste est une confession d'élèves que la vérité a franchi, qui depuis des siècles a été utilisée. Peut-être tous ceux qui ont prêché, tous ceux qui ont rendu témoignage parmi les âges et dans les Saintes Écritures ont lu. Jésus-Christ, notre Seigneur, autrefois a prêché la parole et il a posé la question. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas supporter la vérité? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas supporter ce que je vous dis? Ou bien même, vous ne pouvez même pas supporter d'écouter. Il y en a qui ne pouvaient même pas écouter la vérité. Ils se sont rebellés contre elle. Ils l'ont rejeté. Celui qui est de la vérité, dit notre Seigneur, il écoute ma voix. Et sa voix, c'est sa parole. Alors donc, nous savons exactement que dans le déroulement des siècles, la parole, beaucoup de choses ont été ajoutées à la parole avec des credos, des interprétations. Des traditions, elle a été couverte de plein de choses. Avec toutes sortes d'opinions humaines, nous savons que depuis le temps de la Réformation, Dieu a fait un nouveau commencement et cela ne cessera pas tant que le temps soit arrivé où dans le dernier âge de l'Église, le reste de l'Église soit arrivé là où nos frères et nos sœurs, au commencement, dans la foi, s'étaient tenus. Nous sommes de cette conviction que cet âge est un âge prophétique et que ce n'est pas un âge évangéliste seulement. Dans cette génération, des centaines de puissants évangélistes ont existé, mais aucun d'eux avait été mandaté pour révéler et placer sur le chandelier les mystères de la parole de Dieu. Ils ont prêché l'évangile tel que cela leur avait été donné de le faire. Mais ensuite, Dieu le Seigneur a envoyé parmi tous ces évangélistes qui ont apparu, tous ces hommes qui ont apparu, Dieu a envoyé un homme simple, humble, avec sa parole pour ce temps. Et nous n'avons pas honte de dire que un homme envoyé de Dieu dans notre génération a apparu avec la parole de Dieu adressée au peuple de Dieu qui était déterminé pour le peuple de Dieu dans ce temps. Et son nom était William Branham. Peut-être qu'en ce moment, de l'entendre comme ça, ça semble étrange pour ou bien vouloir encore de nouveau s'élever pour ceux qui l'entendent pour la première fois. Mais s'il vous plaît, comprenez, tel que Dieu, n'est-ce pas, avait envoyé un messager avant sa première venue, c'est ainsi qu'avant son retour, le retour de Christ, il a envoyé aussi un messager. Et l'attention, pour attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce qu'il a à nous dire dans ce temps. Cet homme, envoyé de Dieu, a prêché la parole. Il était un prophète. La parole du Seigneur était venue à lui. Elle lui a été révélée jusqu'à dans toutes les profondeurs de sa parole, les profondeurs des profondeurs. Et je le dis cet après-midi, il y a eu beaucoup qui d'abord avaient été saisis par ce ministère puissant, qui avaient été touchés et aussi qui avaient suivi tout un parcours. Mais subitement, ils se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à accepter les corrections de la parole de Dieu. Dieu reprend, corrige chaque enfant, chaque fille qui reconnaît en tant que tel. Il use de la correction. Il nous laisse pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est un signe de son amour en face de nous. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure, exhorte, etc. Pensez-vous que frère Branham aurait dit ce qu'il a dit, prêché ce qu'il a prêché, si Dieu n'était pas celui qui l'utilisait à le faire et il se tenait sous une obligation divine? Pensez-vous que moi, je dirais ou bien j'écrirais ce que je dis et ce que j'écris? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je ne peux pas me le calculer? Qu'il y a des hommes qui vont se heurter à cela, et qui vont se mettre en colère. Mais cela qu'ils puissent s'en prendre à leur Dieu, parce que cela n'a rien à voir à faire, n'a plus rien à faire à moi. Parce que chacun individuellement est seul devant son Dieu. Nous avons dit cela ici en insistance assez souvent. Les prédications sont là pour que ceux qui les écoutent soient apportés en relation avec Dieu. Le débat n'est pas entre ceux qui écoutent la parole et le prédicateur. Si la parole est apportée avec véracité et que si elle est vraie, alors en prenez-vous à Dieu, car c'est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter. Car c'est la parole de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la parole de Dieu. Et ici, avec cette prédication, il nous est dit, lié à la prédication de la vérité de la parole de Dieu, il est dit ici, supporte les souffrances. Car la prédication de l'évangile de la parole de Dieu, de la vérité, est liée à la souffrance. Où est-ce qu'il n'y aurait pas eu un prophète que vous n'auriez pas persécuté? Où est-ce qu'il n'y aurait pas eu un juste? Ou bien un homme envoyé de Dieu que vous n'auriez pas tué. Le sort de ceux qui ont semé la semence précieuse, qui ont porté la semence précieuse, la semence de la parole de Dieu, a constitué et constitue à ce que ils ont trouvé grâce devant Dieu et aussi devant ceux qui sont déterminés au salut, ils ont été reçus d'eux, acceptés d'eux, reconnus d'eux, parce que nous ne nous trompons pas. Hein. Nous ne pouvons pas d'un côté dire que nous acceptons le message et rejetons le messager. Ça voudrait exactement dire comme si on dirait, nous acceptons la rédemption, le salut, mais rejetons le sauveur, le rédempteur. Non! L'une appartient à l'autre, est inséparable pour toujours. Et Paul disait, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur a un message. Et il faut que ce soit le message divin, le message de Dieu. Aujourd'hui, j'ai quelque chose que je fais très rarement. La dernière prédication que j'ai traduite, que j'ai envoyée, que j'ai édité et envoyé il y a quelques jours, donc je l'ai apporté avec moi, cette prédication avec le titre « La parole parlée est la semence originale ». Cette prédication, cette brochure a été en fait le fondement pour tout ce qui a été prêché après. Cette prédication, et je vous demande tous, aussi la deuxième partie, qui va sortir le prochain mois de cette prédication. Lisez ces prédications très particulièrement avec tout le recueillement. Lisez cette prédication. J'aurais bien voulu imprimer cette phrase avec gros caractère pour qu'elle soit remarquée de tous. Mais je crois que le Saint-Esprit, cette phrase-là, cette expression-là, cette parole et cette pensée, donc dans la prédication, les paragraphes qui me sont très importants, j'avais voulu les faire remarquer. Les déclarations importantes, les pensées importantes, je voulais les écrire en gras. Par exemple, la parole parlée est la semence originale. Ou bien dans la brochure, quand il y a des phrases importantes. Donc, le faire aussi, écrire en gras. Donc, Dieu a utilisé Frère Branham pour que la parole originale, la parole sans alternance, sans falsification, la parole qui n'est pas tordue par l'homme, dans sa forme originelle, la placée sur le chandelier. Frère Branham avait un ministère particulièrement, un ministère de prophète particulier et un mandat comme personne dans cette génération-là. Je voudrais aujourd'hui me prendre cette liberté et à partir de la page 28, lire la chose suivante. Si Dieu et sa parole deviennent un, et là, après il dit tout de suite, Alléluia. Ça veut dire, si l'Esprit de Dieu arrose la semence de Dieu, la parole de Dieu, alors Dieu sera engendré, pour dire reproduit. Et peut-être pour mieux comprendre, avant d'avoir dit cette déclaration, Frère Branham parle et apporte une comparaison naturelle et il dit, je suis né dans la famille de Branham. Je suis né dans la famille de Branham parce que mon père et ma mère dans l'amour se sont unis. Je suis le résultat de leur union et de leur rencontre de l'amour humain. Et c'est ainsi qu'ici, il tire cette comparaison, après cette comparaison, et dit que si Dieu et sa parole viennent ensemble dans un homme, si Dieu et l'Esprit viennent ensemble dans un homme, il y a une union divine et toi et moi, nous sommes le résultat de cette union qui apparaît. Avons-nous compris cela? un engendrement humain n'a pas lieu par le vent, ou bien alors par la pluie. Mais un engendrement a lieu par la parole et l'esprit. Et c'est peut-être raison que cette communion divine et cette relation, cette liaison divine doit avoir lieu en nous. Esprit et parole doivent venir ensemble pour que quelque chose de nouveau puisse naître d'eau et d'esprit. Pas seulement des discours religieux, pas seulement des prédications, mais une régénération qui a lieu dans le plus profond de notre âme. Un changement, une transformation, que la semence incorruptible de la parole de Dieu soit placée en nous. Et que une relation d'amour et une communion réelle ait lieu avec Dieu. Et de cette relation d'amour et de liaison d'amour avec Dieu apparaît une nouvelle création par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi que frère Branham, ici, bien alors survient une nouvelle création. Ici, dans la page 28 en allemand, frère Branham a tiré cette comparaison dans cette prédication. La parole parallèle et la semence originale. Et vous savez que notre Seigneur a toujours aussi pris des exemples naturels pour exprimer et donner le contenu spirituel et divin de ce qu'il voulait dire. Ensuite, il dit, ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Vous n'existez plus. Vous vous considérez comme étant mort, comme vide, n'existant plus réellement, au sens même du mot. Et attendez vous attendez à ce que le grain germe. Et qu'est-ce que c'est alors? Vous ne l'êtes plus. Ce n'est plus l'homme. C'est Dieu dans l'homme. C'est le germe du grain, comme la parole parlée au commencement. Si la parole de Dieu dans un homme est manifestée, alors ce n'est plus l'homme. Si elle produit son effet, ce n'est plus l'homme, car l'homme meurt, l'homme est mort. Il ne peut pas en même temps être quelque chose de croisé, d'hybride, de mélangé, et en même temps être un fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant arrive une expression très énorme, très grande, à laquelle tous nous pouvons nous examiner. Ici, il est dit clairement. Ou alors, il est un fils de la mort, ou alors il est un fils de la vie. Si il est un fils de la vie, pardon, un fils de la mort, pardon, donc laisse-le au diable pour qu'il puisse le tuer. Mais donnez-vous à Dieu un seul instant pour qu'il puisse en vous chasser le diable, tuer le diable ou aller, oui, tuer le diable en vous, le faire sortir, le chasser et vous remplir. Permettez à Dieu ensuite qu'il puisse planter sa propre vie en vous. Alors, ce n'est plus vous, mais c'est la vie de Dieu. Il est la vie de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Dès que l'Esprit de Dieu l'arrose, alors la même chose sera reproduite. Est-ce que vous comprenez cela? Ici, il s'agit principalement, comme tous nous l'avons entendu et compris, que nous sommes morts à nous-mêmes, comme c'est écrit dans Romains 6, dans d'autres écritures. Déjà hier, à Salzbourg, en Autriche, je l'ai dit, dans la plupart des décès, quand on tient une prédication lors d'un enterrement, quand quelqu'un est mort, et qu'on tient la dernière prédication à la tombe. Alors, je lis en général, parmi plusieurs autres écritures, de Romains 14, le verset 7. Ici, il est écrit, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. » Le verset 8, Romains 14. « Soit donc que nous vivons, que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Mais depuis il y a quelque temps, cela vient dans la pensée que cette parole-là n'a pas sa place lors d'une prédication à une tombe, mais dans l'église du Dieu vivant. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc, seulement celui qui vit pour le Seigneur peut mourir pour lui. Celui qui vit sans Dieu mourra sans lui. Et celui qui vit pour lui mourra pour lui. Et ici, il nous a montré que le diable en nous doit être tué. Le diable, sa nature, oui, qui doit être chassé, lui et sa nature. Mais bien aimé, et ses attributs, ses œuvres. Mais bien aimé, nous sommes en fait le champ de bataille dans lequel cette grande bataille se joue. Les incroyants, le diable les a déjà tous sous son contrôle. Mais celui qui veut servir Dieu, dès le début, il sera placé dans une bataille spirituelle. Et cette bataille spirituelle de laquelle Paul écrit aux Hébreux, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La bataille finale doit arriver à ce point où nous disons, je préfère mourir que pécher, que Dieu en nous tous reçoive ce qui nous revient de plein droit. Et que les promesses ne soient pas seulement une réalité en tant que parole dans nos cœurs et écrites dans la Bible, mais que les promesses par la grâce de Dieu trouvent leur accomplissement, puissent trouver leur accomplissement. Comment est-ce que nous pouvons examiner? Qui nous influence? Qu'est-ce qui nous influence? Comment nous pouvons savoir qui habite en nous? Qui nous influence? Qui nous motive? Au service de qui est-ce que nous sommes quand nous parlons, quand nous faisons quelque chose? Nous ne parlons pas des incroyants maintenant. Il ne s'agit pas des païens. Il s'agit des croyants maintenant. Car c'est là que les plus grands dégâts sont produits. Et cela peut nous arriver à l'un à l'autre. Même si on n'est des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas attention et ne prions pas avant d'ouvrir notre bouche pour parler, que comme Pierre dans Matthieu 16, cela puisse nous arriver, faisons attention que nous prononçons quelque chose que nous avons pensé, que qui vient de notre réflexion. Et il a dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit, Satan, arrière de moi, car ce que tu dis n'est pas de Dieu, donc, car tes pensées ne sont pas de Dieu. Vous savez ce qui est écrit là? Lisez dans Matthieu 16. Même des disciples de Jésus-Christ et des enfants de Dieu peuvent, si ils sortent à ce que le Seigneur a dit et avec leur pensée humaine réfléchissent et veulent comprendre car c'est ce que Pierre a fait. Notre Seigneur, lui, parlait justement de ce qu'il ira à Jérusalem et qu'il sera livré au souverain sacrificateur et au scribe et qu'il va devoir souffrir et être livré entre les mains des pécheurs. Pierre aurait dû savoir que le prophète Esaïe avait prédit cela et que David et que tous les prophètes avaient parlé de ça. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, montre à ses disciples la parole prophétique, et il y en a un qui, n'est-ce pas, eux étaient toujours le premier et a été encore celui qui a parlé. Il a réfléchi de façon humaine au lieu dans l'esprit de suivre ce que le Seigneur était en train de lui dire pour l'époque d'autrefois. Et en réfléchissant humainement, il a dit, mais cela, Seigneur, ne t'arrive, que cela ne t'arrive pas. Déjà, le Sauveur lui donne la réponse. Et je suis reconnaissant que cela est aussi écrit dans la Bible. Laissons-nous reprendre par notre Seigneur maintenant dans ces jours où la parole prophétique a été révélée. Il y en a trop qui encore avec leur pensée humaine réfléchissent. Ils sont dans leur pensée et donnent même une réponse au Seigneur après qu'il ait parlé par sa prédication, par sa parole. Des gens à qui le Seigneur pourrait dire encore aujourd'hui, Satan arrière de moi, car tes pensées ne sont pas de Dieu. Tes pensées, des gens qui sont sous le coup de la parole de Dieu. Autrefois, c'était le Seigneur qui personnellement avait parlé avec Pierre. Et celui qui aurait pu être le plus proche de lui n'a pas compris ce que le Seigneur venait de dire. Vous savez que le Seigneur a permis cet exemple pour que nous puissions apprendre de ce qui s'est passé avec Pierre. Ça aurait pu être un autre. Ce qui était important, c'est que le Seigneur prend toujours quelqu'un duquel il sait très bien que cela pourra supporter. Le Seigneur sait très bien à qui est-ce qu'il peut dire quoi. Et quelqu'un d'autre n'aurait pas supporté si le Seigneur lui dit « Arrière de moi, Satan ». Mais il savait que Pierre allait pouvoir supporter ce qu'il lui dit. Donc, même quand le Seigneur nous met un fardeau, il nous aide à porter le fardeau. Vous voyez, notre Seigneur est merveilleux. Il nous a parlé dans ce temps par sa parole prophétique révélée. Heureux ceux qui ne sortent pas à ce que le Seigneur nous dit. Heureux ceux qui ne disent pas « Ah, maintenant, Seigneur, cela, tu n'aurais pas eu besoin de dire ça maintenant. Est-ce que cela n'arrive pas à ton peuple ?» Et c'est cela. Non. Nous ne sommes pas là pour corriger le Seigneur. Nous sommes là pour que le Seigneur nous corrige, puisse nous corriger. Et celui qui n'accepte pas cette correction divine est un bâtard, donc n'est pas une fille de Dieu qui ne peut pas supporter la correction, le châtiment du Seigneur. Vous pensez que tout cela était facile pour moi? Mais il m'a fait comprendre que c'est sa volonté parfaite, que son nom soit loué et exalté. Qui sommes-nous pour que nous puissions nous retenir à ces choses? Satan, c'est ainsi qu'il est écrit ici, doit sortir de vous. Sortir de vous. Vous devez être mort à vous-même et vivre pour pouvoir vivre pour Dieu. Comme c'est écrit dans Romains 6, verset 8 jusqu'au verset 11, on peut dire facilement, oui, je suis mort. Mais dans la pratique, dans la vie quotidienne de tous les jours, là, et c'est comme avec notre vie avec Christ. D'où vient toute cette vieille nature encore? La haine parmi les frères et les sœurs, la jalousie, la méchanceté, les calomnies, les médisances, parler mal, critiquer, d'où vient tout cela? Bien, mes frères et sœurs, disons les choses ouvertement. Dieu, déjà dans Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, à peu près a prononcé ces mots. Je mettrai inimité en toi et la femme, en ta postérité et ta postérité. Ici, il est parlé de deux postérités, de deux semences. De Christ, la semence de Dieu, la postérité de Dieu. qui viendrait dans la chair, parce que nous avons péché dans la chair, il fallait qu'il vienne dans cette chair, et Satan s'est jeté sur lui, a été jeté sur lui, s'est précipité sur lui. Mais le Seigneur a réussi toutes les épreuves, toutes les tentations. Et pour nous, il est allé dans la mort, pour que nous puissions avoir la vie. Mais l'autre postérité, l'autre semence, c'est, n'est-ce pas, la postérité de l'ennemi, la semence de l'ennemi. Par la chute de l'homme, par le péché originel, tous, que ce soit qui sont prédestinés ou pas croyants, tous ont été emportés dans ce péché originel, dans cette chute de l'homme. Chaque homme, de la même manière, naît dans ce monde. Chacun est engendré dans le péché. Et déjà étant perdu, sans espérance et sans Dieu, il est né dans ce monde. Enfanté dans l'iniquité. Mais Dieu s'est révélé aux siens et les appelle à sortir, car il connaît ceux qui sont à lui. Et ceux qui sont à lui le connaissent aussi. Comme autrefois dans le jardin d'Éden, cette inimitié avait été établie. C'est ainsi qu'elle s'est étendue, elle s'est répandue sur tous. Mais c'est sur la croix à Golgotha que ce mur a été renversé. Cette inimitié a été ôtée, renversée, anéantie pour tous ceux qui devaient trouver la paix avec Dieu. Et celui qui a trouvé la paix avec Dieu, qui a la paix avec Dieu, il ne peut pas continuer à vivre dans l'inimitié. Car il est dans la réconciliation, dans le pardon. Il a été inclus dans la réconciliation et dans le pardon. Il est une partie de l'œuvre de la rédemption de Dieu accomplie. Il en est une partie. Donc nous ne pouvons pas en nous, en même temps, avoir et porter les deux. Ce n'est pas possible. Ou alors, nous sommes morts spirituellement, ou bien alors, nous sommes morts avec Christ et ressuscité avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, régénéré, né de nouveau. Donc, comment est-ce qu'on peut remarquer un vrai croyant? Quels sont les signes? Nous attendons tous à l'enlèvement, et l'enlèvement aura lieu bientôt. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous sommes des vrais enfants de Dieu, des véritables? Est-ce que dans ton cœur et dans mon cœur, dans ton âme et dans mon âme, la vie de Dieu, la vie nouvelle, la vie de Dieu lui-même est dans ton âme? Est-ce que la vie de Jésus-Christ et sa nature a déjà été manifestée en toi et par toi? Et le Seigneur a dit que ça ne sert à personne. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Matthieu 9, verset 16. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Le Seigneur, dans Matthieu 9, parlait de manière spirituelle et il a seulement pris une comparaison terrestre. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Et de celui qui est assis sur le trône, il est dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est écrit dans l'Apocalypse. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui, des nouveaux cieux et une nouvelle terre attendent ceux qui sont cette nouvelle créature. Donc Christ est le principe et le commencement et l'origine. Ceux qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre les attend. J'ai eu un temps où je pouvais être seul pour moi et j'ai médité sur beaucoup de choses, pensé à beaucoup de choses et je me posais la question et aussi devant le Seigneur. Qui est vraiment né de Dieu? Qui a vraiment reçu la nouvelle vie, la vie de Dieu lui-même? Qui est vraiment un enfant de Dieu aux yeux de Dieu? Vous savez, quand on devait passer par beaucoup de choses et que on a fait ses propres expériences, comment est-ce que des gens subitement peuvent changer? Et ça semble que de cette même source, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, l'amour et la haine, la vie et la mort. Notre Seigneur dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, verset 9 jusqu'à 11. Alors nous devons nous soumettre à cette examination, à cet examen, et que personne dise, oui, mais nous, comment est-ce que nous pouvons savoir, en fait, ce qui est dans notre cœur? Qui peut le savoir? Cet examen est plus facile que chaque autre examen. Chacun peut examiner ses pensées, son cœur, sans avoir besoin d'un autre. Sans avoir étudié les mathématiques dans une école supérieure. Et là, il y a une seule parole qui est nécessaire, qui est suffisante. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Vous pouvez dire à votre bouche 100 fois, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime les croyants. Ces paroles-là résonnent comme ça et le vent les emporte. C'est quand l'épreuve arrive, quand il y a une situation, alors là sera manifesté ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans notre cœur par tes paroles. Là où des paroles et les cœurs sont en harmonie, sont en accord. Là, Dieu reçoit parmi son cœur et parmi son peuple ce qui lui revient de plein droit. Mais là où les paroles et le cœur ne sont pas en accord, sont en désunion, sont en contradiction, là, on vit la plus grande propre tromperie de tous les âges. Là où le cœur et la bouche ne sont pas un, nous nous trompons nous-mêmes. Et là que Dieu nous aide. Il est même écrit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, et puis tu ne peux pas aimer ton frère que tu peux voir. 1 Jean 4. Et là, il y a encore le vraiment très pieux. Ils viennent et disent, ils te disent, bien, mon bien-aimé frère, je te sers dans mon cœur, mais je ne peux pas avoir de communion avec toi. Vous savez ce que c'est ça? C'est un paradoxe misérable en soi. C'est de se tromper soi-même. Les lèvres remuent et parlent, mais du cœur, n'est-ce pas, sort ce qui est en fait dans le cœur de la bouche. Et ce qui est bien réfléchi et prononcé, je t'aime, etc. Et subitement du cœur, domine ce qui est dans le cœur. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais je ne peux pas avoir de communion avec toi. Non. Soyons des gens qui sont pénétrés de Dieu, de sa parole, de sa véracité, de son amour, de sa vie, de sa nature, de son esprit, sous le couvercle du sang de l'agneau et de la parole et de l'esprit. sont pénétrés. Des hommes qui ne se trompent pas eux-mêmes. Qui sont en train de se tromper eux-mêmes. Ce serait trop dommage si en ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, beaucoup seront déçus de devoir rester. Et ça aussi, hier je l'ai dit, pas seulement que je voudrais moi-même subsister devant le Seigneur quand il reviendra. Je veux avec tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu apparaître devant la face du Seigneur. Tous ceux qui ont écouté la parole de ma bouche. Et vous pouvez bien vous imaginer quand ensuite, en ce jour glorieux, nous entrerons dans la gloire de Dieu. Il y a un cantique qui chante. Quel jour ! Ce sera un jour glorieux. Ce sera. Mais si l'un et l'autre manqueraient en ce jour, et que ce serait encore une joie parfaite pour toi et pour moi de ne pas de voir que celui-ci et celui-là et celle-là manquent, si nous pouvons faire tous nos efforts pour que tout ce qu'on a aimé, oui, si nous devions penser que des gens qu'on a aimés ne seront pas dans la gloire, que Dieu fasse grâce et que nous puissions discerner les malices du diable. Et là, partout où il y a de l'inimitié, là, le diable a sa main dans le jeu. Mais partout où il y a le pardon et la réconciliation possible, alors là, c'est prouver que le Seigneur a parlé avec nous. Et que c'est le Seigneur qui... Comment est-ce que nous pouvons oser prêcher sur la croix et le crucifié si nous permettons de l'inimitié et de la haine qui soit encore établie? Comment pouvons-nous oser prétendre croire à Golgotha et puis être dans l'inimitié? Dans ma Bible, cette parole merveilleuse est encore écrite dans Éphésiens, le chapitre 2. Que sur la croix à Golgotha, l'inimitié a été détruite. Oui, l'inimitié, le mur de séparation. Lisons là, c'est mieux, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé, des deux en a fait un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Laisse-moi un peu m'arrêter ici d'abord. Celui qui prêche Christ en tant que le crucifié et demeure dans l'inimitié, ça veut dire que lui-même, il n'a pas encore expérimenté l'effet de Golgotha dans sa vie personnelle. Il n'a pas encore expérimenté ça personnellement. C'est pas possible. Car nos expériences doivent être en accord avec la parole de Dieu. C'est le temps est arrivé pour ça. Car c'est écrit ici, dans l'évangile, qu'il a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Donc on ne peut pas prêcher ça et puis établir encore l'inimitié. Le mur de séparation, c'est l'inimitié. Et partout où il y a de la division et d'où vient l'inimitié, l'inimitié vient de l'ennemi. L'inimitié vient de l'ennemi. Et parce que l'ennemi est vaincu. Et que nous, en tant que rachetés, nous nous tenons sur le sol de la victoire de Golgotha. Nous ne devons pas permettre à l'ennemi de nous attirer encore dans cette inimitié, les uns contre les autres. Mais nous restons dans la réconciliation et dans le pardon tel que Dieu, avec Dieu et les uns avec les autres. C'est le seul chemin qui mène au but. Qui mène au but. Lisons ici au verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, donc ayant anéanti par sa chair la loi et l'ordonnance dans leur prescription, il voulait créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau qui procure la paix, qui procure la paix. Il voulait transformer, changer, renouveler un homme nouveau transformé, qui procure la paix. Ici, restons ici un peu. En Christ, nous sommes devenus un homme nouveau. Nous avons été transformés. Nous sommes devenus un homme nouveau. Et cet homme nouveau, l'homme nouveau, n'est pas quelqu'un qui ne procure pas la paix. Bien au contraire, qui déclenche, il n'est pas quelqu'un qui utilise la langue pour semer le mal et la confusion. Si nous savons, si nous sommes, nous avons été, nous sommes devenus un nous, si nous sommes devenus un homme nouveau, le résultat de cette vie nouvelle, de cette nouvelle créature dans ton âme, le seul résultat, c'est un homme nouveau qui procure la paix. Le résultat de la vie de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, pas plus que ça. Un homme nouveau qui procure la paix. Bien, frères et sœurs, ça servira à méditer sur cela. Et le prophète Ésaïe, qui déjà parlait du message merveilleux et qui a prophétisé à l'avance sur ce message merveilleux, il dit, bénis les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui apporte le message du salut. Imaginez-vous, comment est-ce que même des pieds peuvent être bénis? Mais bien-aimés, notre Seigneur, sur le serment de la montagne, dans le serment sur la montagne, a exprimé plusieurs paroles de béatitude. Bénissons ceux, bénissons ceux, bénissons ceux. C'est ainsi que toujours il a dit. Et il y a un groupe parmi les bénis, sont ceux qui procurent la paix. Matthieu 5, verset 9. L'une des traductions dit, bénis ceux qui procurent la paix. Oui, ce qui est correct, c'est qui procure la paix. Il y a une traduction qui dit bénis les paisibles, mais c'est bénis ceux qui procurent la paix. Nous sommes devenus une nouvelle création créée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si c'est le cas, on n'a pas besoin de s'efforcer au milieu des disputes. Nous n'avons pas de problème à procurer, nous, la paix que nous avons avec Dieu. Nous la procurons naturellement. Même si déjà les pieds de ceux qui ont annoncé le salut étaient bénis, qu'est-ce qui doit être alors avec la bouche et avec le cœur de ceux qui écoutent le message de la paix et du salut et expérimentent le salut en Christ? Ils sont bénis. Et même notre Seigneur a dit, bénis sont ceux, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Beaucoup de prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Bénis sont vos yeux, bénis sont vos bouches qui confessent ce que Dieu, en tant que témoignage de sa parole, a laissé, a transmis, a établi parmi son peuple. Bénis sont ceux qui procurent la paix. Procurez la paix, car ils posséderont la terre, ils reviendront avec Christ sur terre en tant que roi, régner avec lui. Nous, moi et nous tous, je le crois, que nous voulons appartenir à ceux qui, dans lesquels cette béatitude sont devenues une réalité. Des gens en qui l'œuvre de Golgotha est devenue une réalité divine, peut devenir une réalité divine. s'il est dit que le mur de séparation de l'Illuminati est renversé et anéanti, est détruit. Et je vous dis, si, oui, si nous ne sommes pas encore là où nous devons être, nous sommes sur le meilleur chemin d'arriver là où Dieu veut nous avoir, parce qu'il nous a appelés d'une sainte vocation. Et c'est peut-être raison que nous sommes venus. Et qu'il puisse parler et corriger et ramener et à sa parole. Et sa parole produira toujours l'effet pour lequel il l'a envoyé. Encore cette partie ici, au verset 16. Et les réconciliés, Éphésiens 2, verset 16. Les réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. Après avoir détruit par elle l'inimitié. En allemand, après avoir tué par elle l'inimitié. Ensuite, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix, pas annoncer, mais en allemand, il est venu apporter la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Et après cela, Paul a dit la chose suivante aux croyants, à partir du verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Dans un même esprit. Ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que de tout notre cœur nous pouvons croire cela? Aujourd'hui, cette parole est adressée à nous tous. L'inimitié a été ôté, anéanti. La victoire du crucifié est une réalité divine pour tous ceux qui sont morts avec Christ et crucifiés avec lui. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, où Jésus est mort, et il a vaincu l'enfer pour vaincre l'enfer, la mort et le diable. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Tous qui sont ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie, ils sont déterminés en tant qu'Église à être joints ensemble, à être édifiés, bien coordonnés, à se lever pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le fondement qui est placé, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais bien-aimés, que Dieu, aujourd'hui, dans le plus profond de notre être, de notre cœur, de notre âme, s'il pouvait nous révéler que tout cela est devenu, tout cela sont des réalités divines, des réalités déjà divines. Christ, notre Seigneur, en tant que Fils de Dieu, a été crucifié. Il l'a ressenti l'inimitié. Le diable, l'ennemi s'est jeté sur lui. qu'est-ce qui n'a pas dû aller, qu'est-ce qui n'a pas dû souffrir et supporter. Et c'est ainsi qu'il a porté tous les péchés, les maladies, les iniquités, les transgressions, il a tout porté. Il a tout porté sur lui, tout. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris déjà. Bien-aimé cœur, si aujourd'hui tu acceptes cela comme une réalité divine et un fait divin pour toi dans la foi, alors aujourd'hui, de cet endroit, en tant qu'un béni, d'un racheté de Dieu, tu repars à la maison et tu remercieras le Seigneur pour cela. Une prédication n'est pas seulement tenue pour qu'on puisse plus tard méditer là-dessus et dire peut-être l'écouter encore une deuxième fois. Non, une, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Une prédication est là pour que Dieu directement puisse parler avec nous par sa parole et par son esprit sous l'écoute de la parole annoncée. Tout ce qu'on écoute peut déjà être expérimenté par toi personnellement. Peut arriver là à l'instant où tu l'écoutes, au moment où tu l'écoutes. Repasse là dans ton cœur et dis, bien-aimé Seigneur, mon Dieu, je te remercie de ce que tu as de mon cœur ôté l'inimitié. Tu es l'inimitié. Toute parole qui est prêchée doit être repasser dans le cœur de celui qui l'écoute. On doit pouvoir le croire de notre cœur et le prononcer dans notre bouche. On doit se sentir adressé par Dieu lui-même et recevoir ça de notre cœur et le confesser de notre bouche si on le croit de notre cœur. Seulement si on le croit et qu'on le confesse de notre bouche, cela va produire aussi l'effet pour lequel ces choses ont été prêchées. J'aimerais finir maintenant avec cette remarque qui, à vous et à nous, à moi et à nous, restera une consolation pour toujours. Une consolation et ça va nous fortifier et nous encourager. Dieu, dans ce dernier âge de l'Église, a envoyé ce message adressé à son peuple pour que la troupe des vainqueurs soit appelé à sortir de tous les credos, les faux enseignements et les opinions humaines. Libérer son peuple de tout ce qui vient des hommes et le laver dans le bain de la parole en le purifiant et en le sanctifiant et en le parent, donc le parer l'Église et la préparer pour son retour glorieux. Et personne ne doit être ici en qui le diable pourrait encore chuchoter dans les pensées. Oui, ça pourra être comme ça, c'est vrai. Mais est-ce que moi je pourrais atteindre le but? Est-ce que moi je pourrais participer à cela? Frères et sœurs, de s'examiner soi-même, c'est nécessaire, c'est vrai, c'est important. Mais cet examen personnel n'a pas le droit d'être fait, d'aboutir dans un doute et de terminer dans l'incrédulité. Mais dans ton examen de ta personne, tu dois voir la main du Seigneur qui te reste tendue après t'avoir parlé pour que tu t'examines. C'est justement toi que je veux aider et à faire atteindre le but. C'est justement toi que je vais aider. Loué et exalté soit son nom. Et là, nous pouvons, avec le prophète, dire, Seigneur, celui que tu guéris, il est réellement guéri. Et celui que tu secours, il est réellement secouru. C'est écrit dans Jérémie 15 ou bien 17. La main de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel est élevée et conserve la victoire. Le triomphe, psaume 118, aussi dans ta vie et dans ma vie, et cette victoire, ce triomphe sera manifesté dans l'épouse de l'agneau. Bénis et saints sont ceux qui sont conviés, invités au festin des noces de l'agneau et ceux qui prennent part à la première résurrection, qui auront part à la première résurrection. C'est la troupe des vainqueurs. Et qui est la troupe des vainqueurs? Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Celui qui vaincra. Et la troupe des vainqueurs, les vainqueurs, ce sont ceux qui, dans leur époque, dans leur temps, ont vraiment écouté ce que l'Esprit de Dieu disait à l'église. Ou bien alors dit à l'église. Peut-être que cela aussi a sa place ici à mentionner. Moi, personne pourra, jusqu'à la dernière heure de ma vie, faire en sorte que je croirais une chose quelconque qui est présentée comme enseignement ou bien interprétation après le retour à la maison de frère Branham est propagée partout comme enseignement et interprétation. Non. Je suis lié à Dieu et à sa parole pour toujours. Obligé à rester lié et fidèle à Dieu et à sa parole. Et le reste, ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Ça n'a même pas besoin de rentrer et de sortir. Ça, c'est comme ça, l'eau qui frappe un parapluie. Ça ne rentre même pas. La parole, l'épouse est une épouse parole qui est soumise au Saint-Esprit, à l'esprit de la vérité. Vous allez reconnaître que quand des hommes viennent avec leurs interprétations, avec plein d'amour et de piété, ils ont une apparence plus pieuse que les enseignants de Dieu. Hein? Tous, ils savent très bien ce que les gens veulent entendre. Non, laissez-moi encore insister là-dessus. Je préfère que la parole de Dieu me reprenne, soit une épée tranchante qui pénètre mon cœur, mais que je sois aidé et préparé au lieu que ce soit des belles paroles qu'on me fasse entendre. Il y aura des docteurs, des enseignants qui vont venir pour dire, n'est-ce pas, ce que les gens veulent entendre. C'est écrit dans 2 Timothée. Mais Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir et nous a guéris. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant pour cela? Je pense que nous ne sommes pas encore assez reconnaissants pour cela. Mais le Seigneur va toujours plus remplir nos cœurs de reconnaissance et les faire déborder de louanges et d'adoration et d'actions de grâce. À lui soit l'honneur. Amen. Fin de la transmission.